capo alla source.
Caroline.
Bonjour à tous et bienvenue dans Anti-Histo Amétropique, votre émission d'histoire locale ou lointaine sur Radio Vassivière. Alors aujourd'hui, on va se lancer dans une nouvelle série d'épisodes, une série qui sera consacrée aux guerres de religion à Limoges. Mais avant cela, justement, je vais vous faire un petit message personnel, puisque j'entame, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, je suis étudiant. Et je suis dans ma phase de concours et du coup j'ai moins le temps d'écrire des épisodes comme j'aime le faire. Écrire un épisode, ça nécessite de lire plusieurs articles, de trouver plusieurs sources et de les compiler et d'en faire un résumé digeste et audible. Je ne peux plus faire ce travail-là qui me prend du temps, mais il est hors de question de vous laisser sans nouvel épisode et du coup je vais plutôt vous faire pour c'est jusqu'au mois de juin la lecture d'articles que je trouve particulièrement intéressants et en plus qui répondent à vos attentes, puisque j'ai remarqué que vous aviez beaucoup apprécié l'épisode sur les sièges limousins de la guerre de Cent Ans. Ça avait surpris beaucoup de personnes que le Limousin avait été impliqué dans ce conflit et certains ont apprécié de découvrir l'histoire de Limoges. Alors j'ai décidé de vous proposer un article qui compile un peu ces deux visions, à savoir donc un article sur les guerres de religion à Limoges, donc comment elles se sont passées. Alors d'abord, ces guerres de religion, on va rappeler un peu de contexte, c'était qui, c'était quand et pourquoi. Alors tout d'abord, il faut savoir que donc ce conflit a opposé les catholiques aux protestants. Les protestants, c'était une branche de la chrétienté qui s'est émancipée le 31 octobre 1515 avec la publication des 95 thèses dénonçant les travers de l'église romaine par un théologien allemand, Martin Luther. Il contestait notamment la vente des indulgences, c'est-à-dire qu'en échange d'une somme d'argent ou de dons de terre au bénéfice de l'église, pouvait se voir pardonner ses péchés. Donc petit à petit, le protestantisme a fait des émules et la première vraie polémique en France, elle a lieu avec l'affaire dite des placards à Amboise, c'est-à-dire en fait un placardage clandestin de textes donc anticatholiques sur les lieux publics à Paris et même jusque sur la porte de la chambre du roi qui était alors François Ier. Cette affaire a eu lieu le 17 octobre 1534. Mais les conflits ont commencé un peu plus tard puisqu'en fait François Ier était un roi puissant et il a vite réprimé les révoltes, de même que son successeur Henri II. Ils n'ont permis aucune contestation. Cependant, à la suite de la mort d'Henri II, après une joute où il se prit une lance dans l'œil, ses successeurs François II et ou Charles IX sont trop jeunes pour imposer leur autorité. C'est le moment justement où il y a la régence de Catherine de Médicis. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser en disant que c'est la reine des poisons et qu'elle était une femme aigrie et violente et intolérante, en fait non, elle oscillait justement entre tolérance religieuse et répression. Ce qui en fait a semé le trouble, provoquant l'indignation des catholiques devant cette tolérance et au contraire la révolte des protestants face à cette répression. Donc il faut savoir que ce conflit entre protestants et catholiques, il n'est pas seulement en France, il est aussi européen. On voit des grands états comme le Saint-Empire germanique ou l'Espagne lutter contre les protestants du Nord qui sont en fait plus ou moins certains états allemands, mais surtout la couronne d'Angleterre, puisque la grande Élisabeth Ier soutient les protestants afin d'affaiblir le pouvoir royal français. De l'autre côté, les rois d'Espagne, eux qui sont très catholiques, soutiennent les catholiques en France, attisant ainsi la haine. Il faut savoir d'ailleurs aussi que le royaume de France, malgré qu'il soit officiellement catholique, ne se bat pas dans les combats européens aux côtés des catholiques, mais plutôt aux côtés des protestants. En effet, la France ne va jamais cesser de se battre contre l'Espagne, notamment lors de la guerre des Pays-Bas espagnols. Voilà donc un peu pour le résumé du contexte. Alors on va d'ailleurs rappeler la situation de Limoges. On rappelle que Limoges était divisée en deux cités, Limoges donc d'ailleurs cité et Limoges-Château. Donc jusqu'à la Révolution, les deux agglomérations constituent des entités administratives autonomes et individualisées. La cité est une seigneurie épiscopale, le prélat y est le maître et rien de ce qui touche à l'exercice de la justice ou à l'administration de la place ne peut se faire sans son aval. Certes, depuis le mariage de 1307, le roi est associé à l'exercice de la justice, mais l'évêque a préservé une juridiction particulière, la salle épiscopale, et il règne sur la cité. Limoges-Château illustre une autre distribution du pouvoir politique local. La ville est maîtresse de ses destinées depuis qu'en 1371, Charles V a confirmé le consulat. Les édiles défendent avec pugnacité et constance ces précieuses libertés et supportent au début du siècle le procès engagé en 1515 par le vicomte Henri d'Albret pour son fils Antoine de Bourbon. Les vicomtes, ci-devant, rois de Navarre, dépouillés de toute la partie espagnole de leur royaume à la suite de la défaite de Pampelune, recherchent des compensations monétaires. Ils veulent récupérer des droits coutumiers tels que le droit de chasse depuis longtemps concédé aux habitants de Limoges, obtenir une indemnité au motif d'amende judiciaire impayée, abolir le privilège d'exemption militaire et ont assigné la ville devant le Parlement de Paris. Le Parlement est alors une cour de justice. Le différend est aussi vif que récurrent. Année après année, il mobilise les énergies des consuls, suscite la convocation des conseils de ville peuplés des magistrats municipaux sortis de charge et des chefs de feu les plus notables du château. L'épreuve exacerbe le patriotisme citadin et municipal, réactive la conscience municipale, l'esprit d'indépendance qui fait défaut dans la cité. Entre les deux villes, la différence est aussi d'apparence. Au XVIe siècle, la cité porte toujours les stigmates des ravages occasionnés par la soldatesse du Prince Noir en 1362. Ses remparts sont en piètre état et ne garantissent pas une protection suffisante aux habitations serrées aux abords de la cathédrale toujours en chantier. L'activité économique est atone. Les marchands et artisans, peu nombreux le long des rues et sur les places bordées de maisons coloniales et de bâtiments ecclésiastiques. La cité est ville d'église. Elle vit au rythme des offices, au pas de ses chanoines, sans égard pour les misérables gens de rivière qui vivent au bord de la Vienne, dans le quartier du Navet. Le château est tout autre. Accroché à mi-pente, il est d'abord bien plus peuplé que l'approche cité. En 1557, un emprunt forcé assis sur les officiers, les marchands, la basoche comprend 414 cotisants pour Limoges-Château et 4 dans Limoges-Cité. En 1602, un rôle de taille dénombre 1200 chefs de feu dans la ville intramuros et ses faubourgs les plus proches, avec un coefficient multiplicateur qui peut atteindre 5 en raison de la présence des familles élargies en Limousin. La population excède les 6000 personnes puisque le clergé et les foyers à faibles ressources sont exclus. La ville est marchande. Elle a su valoriser sa position à un carrefour de route. Ses négociants et débiteurs sont d'habiles intermédiaires entre les provinces du nord et du sud du royaume, et ils ont su faire du Poitou, de l'Aulny et de la Saintonge leurs espaces commerciaux de prédilection. Avec la transformation de la sénéchaussée au présidial, en 1553, la création d'une généralité et d'un bureau de finances, en 1557, la ville est devenue la capitale administrative de la province. Cela lui vaut d'être peuplé d'officiers de finances ou de judicature, d'une foule d'avocats, procureurs, huissiers et sergents. Les hommes d'église sont nombreux avec le chapitre collégial de Saint-Martial, les communautés de Piètre-Filleul, de Saint-Pierre-de-Quérois et Saint-Michel-les-Lions, sans toutefois caractériser la vie du château, beaucoup plus industrieux que la cité. Entre les deux villes, mal reliées par les faubourgs Manines et Boucherie, les éléments de différenciation et d'opposition sont légion. Durant les guerres de religion, les agglomérations ont vécu à leur propre rythme, et sauf lors de l'émeute bicéphale d'octobre 1589, les troubles eurent pour cadre le château ou ses abords immédiats.
Ça va, chef Antoine ?
7-0-70. Aïe aïe aïe, 70.
70. L'âge que j'atteindrai sûrement jamais. Emmenez-moi à 70, la seule putain d'époque du maïs.
70, un âge que j'atteindrai sûrement jamais. Ramenez-moi en 70. La seule putain d'époque qui m'aïe. Aïe aïe, j'aurais dû y sois en sûr. Mais j'aurais vécu plus vrai. Je veux des millions, j'en veux 70. Pour oublier que j'ai peur de d'aïe. Aïe aïe,
c'est moi que j'ai le gros sexe, c'est moi que j'ai les grosses. Moi le plus nerveux, mais c'est moi que j'ai l'air trop zen. Vas-y, roule une autre mèche. Ça caille,
ça caille.
En boucle comme sur Akai. Et c'est moi que je prends la place, personne va me faire un procès. C'est moi le plus classe, même quand je choisis d'être obscène. Demande à mes ex-copines qui braillent. Les gouttes de sueur les trahissent.
Hey 70, un âge que j'atteindrai sûrement jamais. Ramenez-moi en 70, la seule putain d'époque qui m'aïe. Aïe aïe, j'aurais dû y sois-en sûr. Mais j'aurais vécu plus vrai. Je veux des millions, j'en veux 70. Pour oublier que j'ai peur de taille. Aïe aïe aïe.
Aujourd'hui bon vivant, je pars de rien. Mais quand la fête se finit, le cafard revient comme en septembre. Le buvard d'Hendrix aurait empêché que ça s'étende. Mes frères belges appellent ça les années 70.
Hey.
Si je t'ai laissé m'emmener quelque part, c'est que t'es encore plus belle que Barge. Hey. Cette nuit escaladons le square. J'ai de l'or dans les couilles, il faut me sucer pour le croire. Allez allez, fais-moi croire que cette vie est belle. J'suis trop guidé par ma libido pour me méfier d'elle. Sois pas mal à l'aise quand les gens te matent. Te juger c'est pas le genre de ma gueule. Danse comme si t'avais les jambes de Michael. Plante verte est plus relaxante qu'un spa. Une gueule de bois ça coûte 15 balles. La mort ça coûte même pas 3 centimes. Mes frangins peuvent plus passer un soir sans tisse. On s'éteindra avant de souffler nos 70.
Que j'atteindrai sûrement jamais. Ramenez-moi en 70. La seule putain d'époque qui m'aïe. Aïe aïe, j'aurais dû y sois-en sûr. Mais j'aurais vécu plus vrai. Je veux des millions, j'en veux 70. Pour oublier que j'ai peur de taille. Aïe aïe,
c'est moi que j'ai le gros sexe. C'est moi que j'ai les crosses. Moi le plus nerveux, mais c'est moi que j'ai l'air trop zen. C'est moi que je prends la place, personne va me faire un procès. C'est moi le plus classe, même quand je choisis d'être obscène. Demande à mes ex-copines qui braillent. Les gouttes de sœur les trahissent.
Hey hey, 70, 7-0, 70, 7-0, 70, 7-0, 70, 7-0, 70, 7-0, 70, 7-0, 70. La seule putain d'époque qui m'aïe. Aïe 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 aïe.
Je vais commencer maintenant la lecture de l'article de Michel Cassan, un historien, donc intitulé « Les violences à Limoges au temps des troubles de religion ». Alors, les premiers troubles ont eu lieu entre 1560 et 1562, c'était surtout des violences iconoclastes, c'est-à-dire qu'on s'attaquait aux images pieuses. Donc les registres consulaires et les chroniques rédigées au XVIIe siècle par le carme Bonaventure de Saint-Aimable ou le curé François Rousseau, rapporte en des termes voisins le récit des premières violences à motif religieux survenues à Limoges. Elles éclatent au printemps 1560, avec le brise des statues de Saint-François et de la Vierge placées sur le portail du couvent des Cordeliers. Quelques semaines plus tard, le dimanche 14 juillet 1560, les habitants du château découvrent à leur réveil que la statue de la Vierge à la place Saint-Michel a été abattue et sa tête déposée sur le pilori de la place des Bancs. Au cours de l'été, une autre statue de Marie est renversée dans le quartier des Vismères, près de la cité. Les croix et les statues dressées au bord des chemins autour de la ville sont brisées. Les violences cessent ensuite pendant 18 mois. jusqu'aux événements du mardi pascal de 1562. Ce jour-là, durant la procession des corps saints, des pierres sont jetées en direction de la chasse de Saint Martial. Les fidèles, exaspérés par l'attentat, se ruèrent sur la demeure d'où était parti le projectile, sans parvenir à se saisir de l'auteur de l'acte. La maison dite du sacrilège fut rasée en 1562, à un moment où les violences iconoclastes s'estompaient. Au total, les manifestations d'iconoclasme restèrent très limitées à Limoges. Les attentats visèrent des croix et des statues isolées, situées à l'extérieur de la ville close, dans un espace faiblement habité où il est plus facile d'agir à l'abri des regards. De même, les actions commises au cœur de la ville sont-elles perpétrées à la faveur de la nuit ou depuis une position ménageant la fuite par les toits. Ces précautions indiquent l'implication d'un nombre réduit d'individus, voire, comme dans le dernier cas, d'un seul, un certain Benlou Orfèvre. Pour leur auteur, les manifestations iconoclastes doivent démontrer l'existence d'une communauté protestante, dessiller les yeux des catholiques plongés dans des vénérations jugées fautives et satisfaire Dieu en détruisant des représentations qu'ils réprouvent. L'iconoclasme obéit à une logique fortement charpentée, mais les atteintes portées à la Vierge, très populaire auprès des fidèles et à Saint Martial, le patron de la ville, irritent au plus haut point les catholiques. Elles entraînent en retour les processions, l'installation d'une statue comparable à celle qui a été profanée et une recharge sacrale de l'espace urbain, considéré comme souillé par la violence huguenote. Huguenot, c'est le nom qu'on donne aux protestants. Au lieu de hâter le triomphe du dieu des calvinistes, l'iconoclasme suscite une crispation des catholiques sur leurs croyances religieuses et un recensement de leurs liens avec le clergé. Bien plus en choisissant comme cible Saint Martial. L'iconoclasme porte atteinte à un personnage placé au firmament du panthéon religieux et civique des Limougeaux. Il heurte profondément leur conscience et le pouvoir pédagogique prêté à ces violences se révèle inopérant, incapable de faire basculer les catholiques hésitants dans la mouvance réformée. Ces manifestations iconoclastes ont au moins révélé l'existence d'un groupe de calvinistes très déterminés. Elles constituent des signaux adressés à la communauté citadine et des moyens de pression sur le consulat obligé de dégager une position. Soit la lutte contre les réformés avec le risque d'être confronté à une recrudescence et un enchaînement des violences, soit la mise en œuvre d'une politique d'acceptation de la diversité confessionnelle jugée plus propice à préserver la paix civile en accord avec les choix contraints effectués par Catherine de Médicis et Michel de l'Hôpital et traduits dans l'édit de janvier 1562. Le consulat adopta le second terme de l'alternative, la tolérance au sens de légitimation juridique de la confession réformée, une option respectée pendant un quart de siècle. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire vos retours sur martin@radiovassiver.com. D'ici là, je vous souhaite le meilleur et on se retrouve dans 2 semaines.
Ah! Mais trop, pique ton cœur, Caroline.